au-dessus du bois de Vincennes, au-dessus du plan. Votre itinéraire, il commence où, Claire Simon? Si vous commencez une balade, elle part d'où?
En général, je pars de vers la route brûlée, par là, là. Parce que moi, j'arrive de Saint-Mandé, du lac de Saint-Mandé, voilà. Mais parfois, je me fais des petits coups de traître et puis je commence par la Porte Dorée, quoi. Mais la Porte Dorée, c'est très... Par là, le lac d'Aumélil et tout, ça ressemble pas à un bois. Il faut aller assez loin pour qu'on arrive vraiment dans la forêt, quoi. Voilà. Et après, même le dimanche, quand il y a un monde fou, dès qu'on est dans la forêt, on est tout seul. C'est très beau.
Elles sont où vos allées, Gilles ?
Mes allées, moi, c'est un peu à la différence de Claire. Moi, j'aime bien passer par le... par la Porte Dorée, en fait, et avancer le long du lac, parce que ça permet un accès, justement, un peu détourné au bois, et puis arriver vraiment dans la nature, et pas passer par Saint-Maur, justement.
Judith, il y a un endroit où vous êtes perdue?
Au début, je me perdais tout le temps, donc j'avais pas compris qu'il y avait trois lacs. Donc c'était comme si... Puis en fait, toutes les allées sont circulaires, donc à chaque fois qu'on essaye d'atteindre un endroit, en suivant l'allée, on revient sur ses pas, quoi. Donc on se retrouve un peu comme Alice au Pays des Merveilles qui avance et recule à la fois.
Là, il est 23h. Qui est où dans le bois à ce moment-là, la nuit?
Il y a des renards partout, hein, d'abord. Et puis, il y a quand même des gens qui habitent par là, vers Saint-Maurice, qui habitent par là, là, dans toute cette partie de forêt. Il y a beaucoup de tentes. Et on avait rencontré Richard Bourdoncle, qui est un ornithologue avec qui on a tourné, qui d'ailleurs vient observer avec nous les tritons, et qui, lui, n'allait courir au bois que la nuit. Voilà. Et il disait qu'il sentait l'odeur des soupes qui cuisaient dans les tentes et tout ça. Voilà.
Donc là, il est en train de courir, peut-être.
Mais je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps chez le marchand de vélo. Il m'a dit que c'était fait mal au genou. Donc je ne sais pas s'il court encore.
C'est mon univers, mon petit univers, mon petit paradis. C'est ici que je suis en communication avec tout ce qui est sain.
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 Il est 23h et chacun construit sa cabane. Chacun a un bois, une forêt. La voix de Claire Simon nous y fait entrer. Elle dit « On y croit, on y est, l'enfance revient, c'est une illusion vraie, le monde sauvage ». Nous sommes dans le bois de Vincennes, les saisons passent et les humains s'agitent. Dans le film « Le bois dont les rêves sont faits », Claire Simon raconte la légende de nos vies. Elle ne filme pas des gens mais des mondes. Jean Rouge disait que le cinéma révélait la partie la plus fictive, mais peut-être la plus réelle de l'individu. Un mensonge plus réel que la vérité. Ce que disent des gens dans un certain état qu'ils ne diraient jamais autrement. Ici, le bois les fait parler. Claire Simon filme le lieu. Les gens ne sont pas des sujets, ils sont des histoires. Stéphanie n'est pas une prostituée, elle devient sa façon de parler. Elle choisit son récit, elle plante son décor. Claire Simon, un jour, a parlé de super présent. Ce qui excède l'ennui du présent, ce qui lui survit et qui, l'air de rien, a eu lieu, une histoire. C'est la petite histoire que chacun s'invente sans que parfois rien ne se passe. C'est entrer dans la tête des gens et demander « Ils font quoi quand on ne les voit pas ? Ils pensent à quoi ?» à l'intérieur d'un espace de liberté. Claire Simon filmait en 1992 une cour de récréation. Un petit garçon réunissait ses bouts de bois et construisait sa maison. Il disait « Laisse-moi tranquille, je fabrique ma maison ». La caméra de Claire Simon, elle arrive juste après ce « Laisse-moi tranquille », quand on est dans la fabrication d'un monde qui est le nôtre. Quand on avoue, voilà ce à quoi je donne ma liberté, ce que je ramasse et ce que je construis. Dans le bois de Vincennes, on voit des solitaires qui s'entourent petit à petit. Il y a aussi les fantômes, il y a la voix de Gilles Deleuze qui pose la question « Est-ce que je suis une personne ou un événement ?» Il y a la caméra qui pose une question « Est-ce qu'on est heureux et à quel moment ?» C'est pendant 2h30 un point sur l'humanité, sur nos fictions, ce qui fait que nous sommes des humains. C'est Philippe qui ne comprend pas l'attrait de la vie normale. C'est Daniel, l'ancien militaire, qui fait ses pompes dans les bois et qui dit « Il faut avoir de l'émotion pour quelqu'un. Il n'y a pas de mot plus grand que ça. » Et nous non plus, on vient d'avoir de l'émotion pour ces humains-là. On ne voit pas de mot plus grand que ça. On a eu de l'émotion pour eux, leur fiction, leur cabane et leur bout de bois. Il y aura Claire Simon, cinéaste, née en Grande-Bretagne, qui a grandi dans le Var, sur la place du village ou en forêt, tombée amoureuse de l'Algérie et qui vit à Paris. Le film « Le bois dont les rêves sont faits » est sorti depuis le 13 avril au cinéma. Il y aura Gilles, qui a guidé Claire Simon dans les allées du bois. Il y aura Judith Fradji, son assistante, dans les bois mais aussi dans la gare du Nord à Paris. Et Lucas Delangle, qui lui aussi connaît bien les allées. Il y aura le comédien Christophe Paou, lui aperçu près de la forêt dans L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, et qui fera avec Claire Simon une lecture à partir de mots recueillis dans le bois. À la musique en studio, il y aura Yom, qui chante l'exil et qui chante les lieux où tout le monde peut se sentir chez soi. Mais ça commencera par quelques dates, Claire Simon. Ça commence par les années 70.
En 74, quand j'avais écrit mes dates clés. 1974, légalisation de l'avortement. J'aime beaucoup l'Algérie. J'étudie l'arabe et le berbère. Grâce à la Cinémathèque d'Alger, je trouve des stages pour devenir monteuse de films. 1981, la gauche passe. Le lendemain, dans le métro, je me dis que les émigrés vont être plus à l'aise ici et qu'ils vont bientôt pouvoir voter. On connaît la suite. Je fais un stage aux ateliers Varan. Et je découvre qu'une caméra filme quand on appuie sur le bouton, même si on est seul, et qu'on peut faire un film sans scénario. La peine de mort est abolie. 1985, ma fille naît. La beauté de la vie éclate et m'emporte par instant. Mère et cinéaste, femme et cinéaste, tout ça, ça ne va pas de soi. Pour certains hommes, on est comme une espèce de concurrence déloyale, surgit d'on ne sait où. Au mieux, ils nous trouvent prétentieuses, pas sexy. Certains essayent de nous décourager. Parfois, ça marche. Mais je ne doute pas des autres. Ackermann, Duras.
L'enfant, spécialement, et même l'adulte, disons au crépuscule ou à la nuit, en pleine forêt, a une très grande peur, car il y a les bruits de la forêt aussi. Donc des présences invisibles, qui sont les présences que nous connaissons des animaux sauvages, qui pratiquement sont nocturnes. Donc toutes ces présences, évidemment, peuvent être très inquiétantes. La forêt est un endroit très obscur par définition. Mais il est bien certain que cette terreur, qu'on appelle en grec la panique, qui vient du nom du dieu Pan, qui est un dieu assez terrible, qui est un dieu de la nature, qui peut être cruel et qui peut être bénéfique, toujours ces deux dimensions, cette panique sacrée, c'est la présence, en effet, du sacré. Donc il y avait quelque chose dans cette terreur, quelque chose de profond, et qui n'était pas simplement la peur que nous connaissons, mais le sentiment d'une présence vivante, d'une présence universelle.
Il y a certains mots, Claire Simon, qui sont souvent accrochés à votre enfance, comme la forêt, le feu, le village, mais pas la panique, ni la panique sacrée.
Oh ben, si vous mettez la forêt, le feu et le village, égale la panique, un petit peu. Oui, oui, je crois. Si, la panique, c'est tout à fait vrai, et ça vient de Pan, quoi. La forêt peut être amie aussi, même si elle est inquiétante, elle peut être amie. Moi, elle était amie avec moi, la forêt.
Et vous parlez d'une fiction de la nature. C'est quoi cette fiction qui commence quand vous vous baladez? Quelle fiction
Ah mais parce qu'on croit que la nature n'a pas d'histoire, ou que... alors que quand on grandit à la campagne, on sait que il y a autant à lire dans la forêt, dans la campagne, qu'il y a à lire dans la ville, quand on voit des maisons détruites, d'autres construites, etc. Et c'est même un jeu qui est très fort et que je crois connaissent tous les gens qui vivent dans la campagne. C'est souvent des espèces de Sherlock Holmes, ils sont toujours en train de dire « Ah bah tiens, il y a machin qui est passé par ici » ou bien « Ah bah le sanglier il a fait ça, bah oui, mais là tu vois s'il y a des iris, c'est qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait des gens qui venaient là et on voit plus rien de leur maison, etc. » Et donc il y a de l'histoire, mais on ne la raconte pas parce qu'on a tendance à penser que la géographie est sans histoire, alors qu'elle est tout le temps en train de changer, la géographie.
Le film « Le bois dont les rêves sont faits » aurait pu s'appeler « Le bien ».
Oui, c'était son titre au départ, oui.
Là, c'est le contraire de la panique, c'est...
Non, mais parce que je voulais raconter qu'il y avait un endroit qui était comme un temple, quoi, moderne, qui était l'endroit où on va pour être bien, de son propre chef, comme le lieu du temps libre, un endroit où chacun est maître de son désir, en tout cas. Ou en tout cas s'y confronte et tout ça, alors que je trouvais que souvent, moi y compris dans les films documentaires, on est plus sur la souffrance et la contrainte, et là je trouvais que c'était faire honneur aux gens et à moi, ou je sais pas, de s'occuper de ce qui est de l'ordre du désir. Et aussi parce qu'on dit, voilà, il n'y a pas... On a renoncé à la révolution, on a renoncé à l'avenir, ce qui est très grave. Alors chacun a fabriqué un petit avenir, une sublimation, quoi. C'est ça que je voulais aller regarder, écouter.
Gilles, vous êtes un des premiers dans le film qu'on suit dans les allées qui sont les vôtres, qui sont un peu les allées du désir, du sexe, où vous cherchez à rencontrer des hommes. Et il y a une phrase assez... drôle, justement, vous dites l'ennemi de ce genre de balade, c'est le portable et c'est toutes les applications qu'on a pour se rencontrer. Alors que là, il y a du hasard, évidemment, c'est risqué parce qu'on n'est pas sûr de rencontrer quelqu'un, mais finalement, c'est un beau risque.
Oui, je précise que c'est un peu au passé pour moi, ces déambulations. Mais justement, c'est au passé, justement, quand il n'y avait pas le téléphone portable, quand il n'y avait pas les applications pour draguer, et du coup...
Vous avez abandonné le bois.
Non, je le pratique encore beaucoup, mais un peu différemment. Voilà, maintenant, je vais pique-niquer avec mon copain.
C'est plus, d'accord.
C'est plus sage. Mais de toute façon, il y a la drague du bois, surtout là où on regardait sur la carte tout à l'heure, elle devient rare quand même. C'est-à-dire que vous parliez de fantômes, c'est un peu des fantômes quand même qu'il y a dans les allées. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du bien, et c'est pour ça quand j'ai rencontré Claire pour la première fois, je savais vraiment pas du tout de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a plu. C'est quand elle a parlé de bien, de bon, et je me suis dit, bon bah voilà, moi ça c'est des choses qui m'intéressent.
Et qu'est-ce qui vous faisait sentir bien dans ce bois ?
Bah parce que c'est un lieu magnifique. Enfin, même la Claire a filmé l'automne, j'apparais à l'automne. Mais toutes les saisons, enfin c'est... Moi j'ai vu des... Il y a des animaux sauvages. Pas que des mecs qui draguent. Hein. Pas que des sauvages comme ça, mais il y a vraiment des... J'ai vu des biches, j'ai vu des... Il y a des oiseaux insensés, c'est un lieu sublime.
Et est-ce qu'il y avait aussi le plaisir de se perdre parfois, de ne pas savoir en fait
ah
ce
oui,
qu'on
oui,
venait
tout
chercher
à fait. Tout à fait. Parce que le grand principe du bois d'Incennes, c'est que... Enfin, moi j'imagine par exemple, je ne suis jamais allé à New York, mais j'imagine Central Park, c'est boum boum boum, des allées. Vincennes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour s'y retrouver, bon courage. Il faut vraiment y aller beaucoup.
Est-ce que vous avez fait des rencontres inattendues pas celle que vous alliez forcément chercher, mais est-ce que vous êtes... Vous parliez d'animaux sauvages, est-ce que vous êtes tombé face à face avec des êtres humains ou des animaux inattendus ?
Inattendu, non, parce que c'est quand même le but. C'est-à-dire, la drague en plein air, dans ce qu'il en reste, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire que comme tout est possible, c'est-à-dire que vous savez pas si vous allez rencontrer un gars qui va vous dire « Bon, on va chez moi », et puis le gars, vous vous retrouvez dans une bagnole, il habite je sais pas où, en super grande banlieue... Ou alors si ça va être juste un type qui veut causer, ou au contraire un type un peu agressif, l'inattendu, il fait partie du truc.
Vous en parlez un peu comme d'un monde perdu ou un monde passé ?
Ben, parce qu'à Paris, c'est fini. Enfin, il n'y a plus... Moi, j'habite devant le Louvre, et je me souviens, j'avais lu que dès le... Quasiment depuis 500 ans, les gens, ils draguaient au Louvre. Et du jour au lendemain, c'était terminé. C'était terminé. Depuis la nuit des temps, les homos se rencontraient au Louvre, vers les guichets, tout ça, ou sur les quais. Maintenant, c'est terminé. Bois de Vincennes, c'est terminé. Maintenant, vous avez des applis, vous n'allez pas vous emmerder à attendre des heures, parce que c'était le principe du truc.
Et qu'est-ce qui rend le bois érotique ?
C'est vous ne voyez rien... Et puis d'un coup, vous voyez quelque chose qui se dessine derrière un arbre, quoi, et ou une ombre, ou un truc, ou une silhouette, vous savez pas ce que c'est, et puis d'un coup, bon, ça peut être quelqu'un, voilà. C'est pas forcément bingo, mais voilà, c'est ça qui rend érotique, c'est qu'il y a aussi, c'est que ça apparaît pas directement, quoi, c'est pas Internet. Internet, c'est, voilà, vous avez une photo, vous cliquez, vous likez, tout ce que vous voulez, vous mettez des cœurs. Après, là, c'est très différent, c'est que vous mettez du temps à le voir, ça, je sais pas, ça déambule, ça tourne, ça se cache, c'est pas évident, ça disparaît. Donc là, merde, vous êtes obligé d'avancer plus vite. Ouais, c'est ça, c'est hyper érotique, c'est même le principe même de la drague. C'est, je m'approche, tu recules, je veux te parler, t'es plus là, je te laisse un message, t'es pas là, tu réponds pas, c'est le principe.
Cette chasse, vous l'avez différemment, mais un peu vécue. Claire Simon, aller à la rencontre de gens, de récits. Comment vous êtes entourée ? Parce que j'imagine, seule, on rate trop de choses. Par Judith et Lucas, entre autres. Comment vous avez été à la rencontre comme ça du...
Ben oui, on est des dragueurs. Hein. Des documentaristes, c'est draguer. Enfin, forcément, oui. Et c'est mes deux camarades de drague, Lucas et Judith. Oui, il fallait être deux, d'abord pour se donner du courage, parce que le bois, c'est grand et c'est peut-être parfois difficile de rentrer dedans. Et c'est pour ça que quand on rencontre Gilles et qu'il nous guide dans son récit et dans le lieu, c'est merveilleux parce que là... C'est le guide. Donc, il fallait de temps en temps que je fasse une liste à Lucas ou à Judith de gens que je voulais rencontrer. Et parfois, Judith a beaucoup travaillé seule à certains moments quand moi, je devais aller ailleurs. Ou par exemple, elle a rencontré beaucoup de prostituées et toujours les prostituées disaient non et tout ça. Lucas aussi, ensuite, est venu... Et voilà, c'était parfois, on a rencontré des gens ensemble et c'est tout un chemin, quoi. Tout le monde a rencontré des gens.
Judith, ça commençait comment une conversation ? Gilles parlait du bien.
La première fois que j'avais été où j'avais rencontré des Iraniens qui sont pas du tout dans le film, c'était des repérages. Là, ils étaient en train de faire un pique-nique, de manger. Ils fêtaient Nowruz, en fait. Donc, le nouvel an. Et là, ils m'ont invité à manger. Donc, j'ai mis du temps à parler du film. Ce qui était un peu flottant dans le bois, c'est que parfois, y a d'autres gens comme nous qui traînent un peu, quoi. Donc, on peut rentrer comme ça. Je sais pas, il y a des gens qui jouent et qui font... Donc, c'était, oui, il y avait plein de façons de rentrer en contact. Et par exemple, quand j'avais des missions, comme par exemple pour les prostituées, je sais pas trop, ça dépendait avec chacune. Il y en avait où c'était facile de leur parler parce qu'elles étaient assez marrantes et tout. Et puis, en même temps, ça s'arrêtait assez vite dès qu'on parlait d'idées d'un film, quoi.
Ici, c'est ta chambre numéro 2.
Voilà, chambre numéro 2. Chambre numéro 1.
C'est là.
Bah ouais. Après, tu sais, on va un peu partout, hein, tu vois.
Mais t'as des... Tu t'installes par terre ou tu mets...
Non, hein, c'est debout.
Tout debout.
Ouais, c'est tout debout. En levrette. Tu peux pas faire allonger. Il y en a du monde. Hein, mais...
Donc les mecs, ça leur plaît, en fait, la forêt. Et
bah, en fait, ils sont stressés. Il y en a, ils s'en foutent, c'est normal et tout, ils ont l'habitude parce que quand tu es venu, bon, la première fois c'est stressant, après quand tu viens une, deux fois, trois fois, bah après ça y est, t'es habitué, mais il y en a, ouais, ils sont stressés, t'es obligé de les calmer, t'inquiète pas, chouchou et tout, je connais, c'est mon coin, t'es sûr, ouais, je surveille, toi, détends-toi, parce que si le mec il est stressé, moi ça va me faire perdre mon temps, donc voilà quoi, ça tout marche avec le stress, ça dépend de l'état d'esprit. Donc, ouais, ça dépend du mec en fait. Il y en a, ils s'en foutent, il y en a, ils sont en panique, ils regardent à gauche, à droite, ils sont même pas concentrés sur leur truc. Ça dépend quoi.
Ouais, ils en profitent même pas.
Il y en a des fois, il y en a, ils en profitent pas, ils viennent, ils donnent leur thune, ils sont là, ils regardent à gauche, à droite, toi t'es là, t'es occupé. Tu te dis punaise, le mec il est en stress et tout. Alors je dis chouchou, ça va et tout. Après, bon, le mec après il part, il dit ouais, c'est stressant, mais c'était bien. Ok, salut. Ah, c'est quand on arrive dans un endroit nouveau en fait, c'est. Enfin, en même temps, il y a l'adrénaline du bois, il y a l'excitation d'être dehors. Je sais pas, des fois, moi, ce qu'ils pensent.
C'était la voix de Stéphanie. Et je crois que vous dites, Claire Simon, que le film a commencé, ou que vous avez su que le film avait commencé quand vous l'avez rencontrée, quand elle vous a parlé.
Enfin, disons que c'était une des choses qui me paraissait essentielle. De rencontrer quelqu'un qui se prostituait dans le bois et que c'était une des choses les plus difficiles d'arriver à... Là, il s'est trouvé que c'était vraiment une rencontre et que... Voilà, j'ai eu l'impression, là, je me suis dit, bon, ça va, si... maintenant, il n'y a plus qu'à continuer, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que Stéphanie a eu envie de vous parler par rapport à toutes les autres qui avaient dit non ?
D'abord parce qu'elle est seule et indépendante, elle dépend de personne, donc et puis parce que elle a une force de vie, c'est une fille complètement volontaire, indépendante. Je pense que elle était, en tout cas la première fois, elle était persuadée qu'elle allait arrêter et que c'était aussi peut-être sans doute pour se contraindre un peu. Mais parce qu'elle est curieuse, elle aime le monde, elle aime, et puis qu'elle est capable de parler de ce qu'elle fait, de parler de ça avec liberté. Pour moi qui ne suis pas prostituée, c'est difficile de parler avec les prostituées. J'ai toujours considéré que c'était une des choses qui m'intéressait le plus parce que c'est d'un côté à l'autre de ce que c'est que d'être une femme, quoi. Enfin, c'est pas exclusif aux femmes, la prostitution, mais disons que je pense que toutes les femmes sont toujours un peu intimidées devant une prostituée qui est à la fois la plus haute et la dernière, quoi. Il y a toujours ça, c'est la sainte putain, c'est voilà. Stéphanie, elle est extrêmement libre. Et en même temps, est-ce qu'on peut être libre quand on fait ça ? C'est toute la question, quoi. Voilà.
Ce qui est assez incroyable, c'est justement la parole dans le bois. Ces mots qui sont prononcés par chacun et qui sont très liés au lieu, au bois. Parce
Bien
que là,
sûr.
Elle parle, voilà, elle montre sa chambre dans le bois, elle parle de l'adrénaline du bois, de ce que ça suscite d'être à l'extérieur. Donc, le bois... Révèle la parole, enfin une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui ne serait pas prononcée ailleurs.
Non, absolument. Mais c'est l'idée du film. C'est-à-dire, c'est plutôt tenter de faire le portrait du bois par les paroles des gens qui en font l'expérience, quoi. C'est évidemment que de la filmer en hiver, voilà, dans la forêt, sans feuilles et tout, ça donnait quelque chose, une espèce de contradiction avec son sac rose et tout, qui était très très fort. Bon, disons que moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de faire que la légende du bois s'exprime par chacun, par chaque expérience, et que j'étais sûre que s'en dégagerait une langue. Voilà. Et cette langue que je voulais saisir, c'est une langue voilà, que j'appelais la langue du bien. Bon, c'est dans le sens où c'est une langue... mais c'est parce qu'on ne considère pas que dans le documentaire, il peut y avoir de la mise en scène et du style. Or, moi, je pense le contraire. Et quand je parle d'une langue, c'est une question de style, quoi. C'est-à-dire qu'on peut parler sous la forme de la plainte, de la colère, on peut raconter des histoires sous toute forme de style. Et là, il s'agissait du style de l'apologie. Voilà. C'est un style classique qui nous vient de l'Antiquité. Et tout le monde a parlé sous la forme de l'apologie. Et c'est exactement ça que je voulais. Et je pensais que seul le bois permettait de dégager la langue de l'apologie.
Et c'est vrai que Stéphanie, par exemple, comme tous les autres, c'est aussi quelque chose qui lui appartient, ce lien au bois.
Ah, bien sûr.
Et donc,
oui, oui.
Ça déclenche une parole.
Mais parce que quand je dis indépendante et libre, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'elle se sent indépendante et libre parce que c'est le bois, parce qu'elle peut venir au bois, parce que le bois ne ferme jamais, parce que le bois appartient à tout le monde, parce que le bois est le bien commun. C'est peut-être pas le bien, mais en tout cas, c'est le bien commun. Ça, c'est sûr. Et donc, comme tout le monde, elle peut y aller. Et quand elle a des angoisses de fric, etc., enfin, pas des angoisses, mais des réels manques, eh ben elle se dit je vais au bois et je vais faire du fric. Voilà.
Déjà, il faut le dire, n'est-ce pas, que la caméra n'est pas un œil.
Bien sûr.
C'est un objectif.
C'est un œil partial. C'est-à-dire que là-dedans, il y a toute une série d'intermédiaires et que ces intermédiaires sont des intermédiaires mensongers. Nous rétrécissons le temps, nous l'allongeons, nous choisissons un angle de prise de vue, nous déformons les personnages, nous accélérons un mouvement et nous suivons ce mouvement au détriment d'un autre mouvement. Donc il y a là un travail,
choix,
un travail de mensonge. Mais, si vous voulez, en nous revendiquant quand même ce terme, en ce sens que pour moi, et pour Edgar Morin à l'époque où nous faisions ce film, ce mensonge était plus réel que la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes et de faits humains qui nous entourent, de témoignages, qui ne peuvent être que des témoignages mensongers, qui sont ce que disent des gens dans un certain état qui ne diraient jamais autrement. Qui sont le fait que, par exemple, ce que je dis devant ce micro, je ne le dirais pas si nous étions en face d'un pot de bière, simplement parce qu'il y a un micro. Il y a donc là un phénomène très étrange, et ce phénomène très étrange est une sorte de catalyseur qui permet de révéler, sans doute, une partie entièrement fictive de chacun d'entre nous, mais qui, pour moi, est la facette la plus réelle de l'individu.
C'est la voix de Jean Rouch et il évoquait son film Chronique d'un été. Cette partie fictive de l'individu, c'est aussi ce que vous révélez et ce qui se révèle dans le bois, Claire Simon.
Oui, oui, c'est un grand maître, Jean Rouch. C'est celui qui a le mieux montré que la caméra est l'instrument du sorcier et que c'est par la caméra que quelque chose se transforme, quoi. Il ne s'agit jamais d'être invisible avec la caméra. Au contraire, la caméra, c'est l'instrument de la catharsis, de ce qui fait que l'autre, qu'on fait avec l'autre quelque chose, quoi. Et ça, moi, je l'ai vraiment appris de Jean Rouch. Comme ça, en voyant les films. Et puis, il y avait un très beau film de... Ça y est, j'ai un trou. Mais enfin, un film sur Jean Rouch. Et où on le voit charger la caméra. C'est une Hatton, et donc il a les mains dans le charging bag et il parle à ses deux amis et ils vont évoquer le troisième qui est mort. Et on voit bien que les mains dans le charging bag c'est le moment où Jean Rouge devient le sorcier et où il va pouvoir parler avec les morts. Et c'est magnifique, voilà. Et Rouge a vraiment nous a montré ça. Et il disait aussi, il faut faire comme si. Que le cinéma, c'était comme si. Et je pense qu'au bois, tout le monde fait comme si. Comme si c'était mon pays, comme si c'était le merveilleux jardin de l'amour, comme si d'autres m'aimaient, comme si, voilà.
Gilles, est-ce que quand on est dans le bois, on a conscience de tous ces mondes qui coexistent dans le bois? Est-ce qu'en voyant le film, vous avez découvert peut-être des mondes que vous ne soupçonnez pas?
Ah bah oui, oui, énormément, ouais. C'est très difficile, en fait, de voir tout ce que voit Claire Simon, en fait. C'est quasiment impossible, hein. C'est-à-dire que tout le monde cohabite, mais il n'y a pas des réunions de copropriété, quoi, où chacun dit son petit truc. Et je ne dis pas que le film en est une, pas du tout. Mais c'est le principe. C'est que moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait des gens qui promenaient les chiens des autres. Je savais pas du tout. Enfin, les prostituées, je savais, mais je visualisais même pas où c'était précisément, en fait.
Est-ce que vous saviez qu'il y avait des habitants du bois, comme Philippe?
Oui, ça oui, ça oui. Enfin, Philippe, il est un peu caché quand même. Mais ça oui, ça vous voyez. Mais n'importe qui se promène à Vincennes, mais comme vraiment partout à Paris, quoi. Vous apercevez souvent des tentes, un bout de sac de couchage. Ça, à Vincennes, vous ne pouvez pas le louper. Hein. Vraiment, c'est partout.
Et la cabane de Philippe, elle est assez singulière. Mmh. Comment vous l'avez approchée?
C'est Lucas qui l'a approchée.
Je me souviens qu'on passait souvent par là pour essayer de le rencontrer. Et j'ai été une fois, je sais pas, il était en train de faire à manger, je suis resté avec lui, je sais pas, peut-être une demi-heure, à parler de tout, du renard qui venait le voir, de choses très simples. Et puis je lui ai parlé du film, il m'avait posé beaucoup de questions, Philippe, parce qu'il est un peu méfiant, quoi, je dirais. Donc il posait beaucoup de questions sur le regard de Claire, donc j'essayais d'en parler le mieux possible sur... Justement, le bien, moi j'avais parlé beaucoup de ça. Et finalement, il n'était pas d'accord, et donc ça l'intéressait, quoi, cette idée du bien. Et je lui avais dit que je reviendrais avec Claire, et il avait dit d'accord, on était arrivés tous les deux.
Et pourquoi il n'était pas d'accord?
Et alors pourquoi il n'était pas d'accord? Il trouvait peut-être que c'était un peu trop, quoi. Parce qu'il me parlait pas de lui, de sa situation, mais peut-être des prostituées, et ça gênait cette idée du bien avec les prostituées, justement. C'est quand même quelqu'un d'assez intelligent, donc il avait bien réfléchi à la question, quoi, quand Claire est arrivée. Du coup, au début, il n'était pas complètement d'accord pour être filmé, mais je pense qu'il en avait déjà envie, sans le savoir, peut-être encore.
Ces derniers temps, je dors. C'est ce que je fais, c'est dormir. Je dors 2-3 jours d'affilée. Là, ça fait 2 jours que je dormais. Et en fait, je dors pas pour dormir, je dors pour faire une espèce de voyage en moi-même.
Ah oui?
Ouais. Essayer de... Ouais, c'est des voyages. Des voyages en moi-même. Mais peut-être la forêt me donne un substitut essentiel. Ouais, les animaux.
Les animaux.
Le renard qui vient ici presque toutes les nuits. C'est drôle quand il vient avec son... Je le sens tout de suite. Maintenant non, parce que c'est tout humide. Quand c'est sec, ça fait... Quand il marche, ça fait un bruit. Et il marche à pas rapide et lent en même temps. Alors c'est très facile à le... À voir que c'est lui, c'est pas une personne. Personne ne marche pas comme ça.
parlait de la fiction de chacun, que chacun se crée. Philippe et son voyage en lui-même, lui, il a concrètement construit une cabane et créé son monde.
Oui, c'est un anachorète. C'est difficile de dire quel monde il a construit. Parce qu'en même temps, il est très curieux, il se promène, on l'a rencontré plein de fois dans le bois, ailleurs, etc. Il connaît beaucoup de choses. Je pense qu'il résiste. Il résiste à lui-même, surtout, en fait. Parce que, comme il l'explique, quand même, il a... Enfin, de vivre là, dans le bois, c'est quand même une espèce de chute, quoi. Et il résiste, voilà. Et puis, il accumule beaucoup de choses aussi. J'ai beaucoup regretté, parce qu'un jour, Lucas m'a dit qu'il l'avait rencontré, qu'il avait, il avait beaucoup plu, et qu'il avait vidé toute sa cabane de tout ce qu'il avait accumulé, ce qui a l'air d'être phénoménal, et qu'il l'avait tout mis à sécher. Et ça, voilà, c'est une scène que j'aurais bien aimé. Parce qu'il se sentait dévoré par les objets qu'il accumulait. Il sentait que ça n'allait pas, ça.
J'avais envie d'écouter un son un peu plus ancien. Je parlais du film Récréation. Et il est question aussi de maison, de cabane. Mais... Alors là, c'est un petit garçon.
Tu viendras dans ma maison quand j'aurai fini ma maison. On fera la... Attends, on dira que ça c'est la porte en fait. Non, mais on fera notre maison à notre jour parce que...
Là, c'est là, je
t'en... Il faut rentrer. Laisse tout comme ça. On fera une autre maison à notre jour, d'accord?
D'accord.
Ça, c'est le film Récréation en 1992. Et déjà, on est dans des petits scénarios de chacun. C'est des vrais scénarios d'enfants, de jeux. Parfois, c'est cruel d'ailleurs, mais c'est assez beau déjà d'entendre... Ils ramassent souvent des bouts de bois. Ils essaient souvent de construire leur maison et leur petite cabane et donc leur petit monde à eux.
Oui, c'est des scénaristes, quoi. Ils cherchent la bonne histoire qui marche et... Il y a des histoires qui marchent mieux que d'autres. C'est très beau dans la cour de récréation parce qu'on voit toujours... tout le monde cherche une histoire qui marche, quoi. Et nous, après, qui essayons de faire des films, on est un peu comme ça, quoi. Et sachant que chaque histoire est une... Et en même temps, une... Il faut qu'elle soit à la fois un jeu et en même temps assez vrai, quoi. Et qu'on peut en souffrir un peu.
Guillaume n'acquiesce pas sagement à une tradition, mais il la fait vivre, respirer. Il imagine depuis des années un klezmer futuriste avec un temps d'avance et pas un retour dans le passé. Le nouvel album s'appelle Songs for the Old Man. Il évoque l'exil américain de son père, parti aux États-Unis dans les années 50. Et c'est un hommage à tous les nomades et à tous les lieux d'accueil, toutes les cabanes, tous les bouts de bois, toutes les forêts. Et le morceau s'appellera Guillaume.
Everywhere Home. Et je suis Guillaume dans Backstage d'Aurélie Charron sur France Culture. Ha 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 ha
Le fait de mémoire, donc...
Et le motif, non?
Sur le motif, très peu. Mais si vous faites une paraphrase de ce que vous voyez, ça va être horrible. Le tableau...
Vous croyez qu'ils faisaient jamais ça, les grands maîtres?
Ils faisaient une périphrase.
Ah, d'accord.
Une périphrase de ce qu'ils voyaient.
Pas une paraphrase, une périphrase.
Toujours une périphrase. Même un tableau ultra réaliste, c'est une forme de périphrase.
C'est quoi exactement une périphrase?
La périphrase, c'est comme dans un texte de Rabelais, quoi. Je veux dire, si... c'est ce qu'il y a de caché à travers l'analyse du texte. Mais moi, ça n'apporte pas grand-chose de ce que je fais. Moi, je ne crée rien dans la peinture. Je fais mes tableaux, c'est tout.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que la peinture, c'est avoir un style, une personnalité.
Et vous avez
je n'ai pas de personnalité, je me balade dans la peinture. Je vais finir ça parce qu'il fait nuit. Ça tombe vite.
Il est où, Claire Simon, sur le plan là, du bois de Vincennes, le peintre?
Il est près du jardin d'agronomie tropicale, près de la rivière. Une petite rivière à côté du jardin, où j'ai beaucoup tourné et où ça sera dans les bonus.
Et vous avez
il y en aura plein dans les bonus.
Vous avez eu envie de retranscrire sa parole à lui?
Oui, parce que dans le montage, d'ailleurs, c'est comme... On suit une ligne comme ça du film d'un bout à l'autre et il y a des choses que j'avais envie de déployer. J'avais envie, on en avait parlé avec Christophe, d'essayer de peut-être de faire quelque chose sur une scène. Et en tout cas, voilà, on s'est dit qu'on allait vous lire un petit bout de ce qui n'est pas dans le film du peintre.
Est-ce qu'il pourra être dit au théâtre, peut-être ?
On espère.
Et ça, c'était déjà une idée à partir de la Gare du Nord ?
Oui.
Vous aviez l'idée d'une pièce de théâtre qui n'a pas existé ?
Non. Et là, j'aimerais bien un jour arriver à trouver un endroit pour essayer de porter une parole que j'ai entendue, de la déployer, de la faire entendre sur une scène où on entend autrement les mots et où on comprend leur puissance éventuellement, si j'y arrive, si Christophe y arrive.
Alors vous allez lire à trois, Christophe Paou, Claire Simon et Judith Fradji.
Voilà.
Ouais, bon, mais là, je suis enregistré, donc ça craint un peu.
Ça craint quoi ?
Bah après, ça rentre dans des trucs... Bon, mais allez, si vous voulez... Je fonctionne comme ça, de mémoire. Aujourd'hui, je voulais presque faire un truc comme ça, au crayon, pensant à la période Cobra, Nicolas Dostel, Poliakov, Malevitch. J'aime bien aussi le Bauhaus. Bauhaus.
Berlin.
Bah, la peinture, c'est avoir un style. Une personnalité. Moi, j'ai pas de personnalité. Je me balade dans la peinture. Je me balade dans la peinture. Là, j'ai des carrés style Mondrian. Et j'ai une surface. Je vais finir ça parce qu'il fait nuit. Ça tombe vite. Tiens, regardez, je vous montre. Ça, je le vire. Je vous ai montré, je repasse. Hop, hop, hop. Ça va très vite. Il y a un côté superposition des éléments. Une façon de juxtaposer, vertical, horizontal, éloigné, en diagonale. Mais il y a un élément que je fais pas. C'est les contre-jours interdépendants, parce que ça, c'est la formation des beaux-arts. Ou alors, il faudrait travailler d'après motif, d'après nature. Vous arrêtez de me filmer, là.
C'est vrai ?
Ouais, après, ça fait trop... C'est obsessionnel. J'aurais jamais dû être filmé.
Ah bon ?
Moi, je travaille de mémoire. De souvenirs. J'ai ce point commun, peut-être, avec les peintres vénitiens. Italiens, tout cela, quoi. Eux, ils avaient tout appris. Le Titien, Véronèse... Ça, j'ai ce point commun avec tous ces peintres, sauf qu'ils ont tout appris et moi, j'ai rien appris du tout. Donc, voilà.
Il y a du monde hein, dans votre atelier.
Ouais.
Mental, il y a beaucoup de peintres.
Ouais, ouais.
Vous êtes nombreux, quoi.
Non, mais je travaille seul. Moi, je vous ai dit,
Mais vous avez déjà peint ce que vous avez sous les yeux, ici ?
Le motif.
Oui, je vous l'ai déjà dit, quelques ponts.
Et avant, quand vous étiez enfant, vous dessiniez beaucoup ?
Ça, c'est personnel. Vous rentrez dans du...
Non.
Faut éteindre, là. Je vous le dis, mais il faut que vous retourniez votre caméra. Je vois votre luminaire rouge. Vous éteignez tout le truc, la batterie, la... Je vois la batterie. Ces trucs là, c'est...
Je filme les enfants là.
Ouais, vous l'éteignez votre luminaire.
Non, mais je filme les enfants parce que vous voyez, moi, contrairement à vous, je travaille sur le motif.
Ah, vous peignez ?
Bah, c'est-à-dire une caméra, c'est un peu comme un pinceau, quoi.
Bah ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, au Beaux-Arts, je crois qu'ils utilisent la...
La vidéo, ouais.
Faudra éteindre.
Non, non.
Allez, je vais faire ça car la nuit tombe très vite. Allez, je peux m'amuser avec ça. À cette heure-là, je sais pas, ça va être un peu...
Et il a un titre, votre tableau ?
Ça, je peux pas. Attendez, éteignez votre caméra. Mais ça, je peux pas vous le dire. Sinon, je vais pas non plus me déshabiller dans ma démarche. Pas sur le plan vestimentaire.
Bon, bah tant pis, ça fait rien alors.
Chaque surface, si vous voulez... Pour moi, c'est un essai. Je me donne une leçon à moi-même.
D'accord.
Faut que ça frétille un tableau, comme un cours d'eau, faut que ça frétille. Ça va très vite dans la tête. Je vois comme vous, mais c'est ce que le cerveau communique au bout de la main. Là, regardez. Tiens, regardez. On dirait que Nicolas de Staël, il se balade rien que dans ce tableau. Là, regardez, vous avez pas vu ? Nicolas de Staël, on dirait qu'il est là. Vous voyez le compartiment ? Regardez, hop, 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 un petit rond, ce qu'il appelait le rond parfait, Picasso, le rond parfait de Picasso, j'ai eu du mal à comprendre, mais ce qu'il appelait le rond parfait, c'est un rond imparfait. Vous travaillez à la télé ?
C'est pas la télé.
Vous êtes metteur en scène alors ?
Oui.
Pourquoi vous n'allez pas à la butte Montmartre? C'est bien là-bas.
Moi, j'aime bien ici.
Vous aimez bien? Vous aimez bien le tableau, peut-être?
Ouais.
Ouais, on verra bien. C'est simple, je peins un peu comme un somnambule.
Ouais.
Mais ça devrait même pas être filmé.
Ah bon?
C'est pas très secret, si?
Non, mais je sais pas ce que je dis. C'est pas... Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est que de l'information. Moi, j'apporte rien à la peinture. C'est pas la bonne adresse. Quand je dis c'est pas la bonne adresse, voilà. Moi, je me sens pas appartenir à l'art. L'art, c'est quelque chose de plus puissant que moi, certainement.
Vous écrivez, en fait, en filmant. Claire Simon, c'est de l'écriture que vous générez.
Oui, c'est l'autre qui écrit aussi, oui.
Et qu'est-ce que ça fait comme impression pour vous de le rejouer? De rejouer ces...
Mais je veux arriver à entendre tous les cheminements que je trouve très très beaux, parce que sans doute c'est le désir qui écrit, quoi, le désir de celui qui parle. Et nous, on essaye de le faire entendre, parce que ce que dit cet homme pourrait être dit par un grand peintre. Et pourtant, c'est le récit d'un tourment autour de « je ne serai jamais un artiste et je ne fais que ça toute la journée ». Voilà, je trouve ça très, très beau comment il le dit. Et ce qui est très beau, c'est chaque fois que cette parole, elle devient... de la littérature. Et on a beaucoup travaillé ça avec Judith à la Gare du Nord. Et voilà, et là, c'est... Enfin, moi, je trouve ça, c'est... Voilà. Je trouve qu'il y a un lien très fort entre le documentaire et la littérature. Ce qui est très beau, c'est quand les gens, ce qui est le cas ici, c'est quand les gens eux-mêmes, à travers ce qu'on disait de la caméra, arrivent à accéder à une espèce de boucle dans le texte qui fait que tout d'un coup, ce qui avait l'air d'être juste quelques phrases anecdotiques deviennent un récit profond et en général assez universel de leur propre vie, mais qui nous regarde.
Je crois que... par rapport au fait que je n'étais pas seul avant, j'ai pas le sentiment quelquefois d'exister véritablement.
Ah oui?
Oui, parce que j'ai toujours partagé avec quelqu'un des emplacements, des endroits. Et après, quand on se retrouve tout seul, il y a ce vide, quoi. Ce vide qui fait que... Ah, j'ai peut-être pas les mots pour le dire, je sais pas. C'est un vide... un vide constant, un vide où y a rien qui remplace dans le présent quelque chose qui vous est cher. Il me manque quelqu'un, quoi, ouais. Avec qui j'avais l'habitude de partager.
Quelqu'un que vous regrettez, quoi.
Oui, bien sûr. Donc
une femme.
Oui, une femme. Il me faut une autre femme, peut-être. Il faut de l'émotion. C'est le plus grand mot que je puisse trouver dans l'amour, de l'émotion pour quelqu'un. Si vous avez de l'émotion, alors là, ça va.
Un coup de feu dans la nuit. Une douleur glaciale qui s'élance. La forêt soudain qui frémit. Puis s'installe le silence. La assourdie, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle. Me frôle le cou, un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue.
C'était la voix de Daniel, que vous suivez, que vous retrouvez d'ailleurs dans deux saisons différentes.
Oui.
Et qui est un ancien militaire qui fait ses pompes, qui a, s'est construit comme une salle de sport dans le bois. Et qui dit ces phrases, en effet, très profondes, qui sont de la littérature presque, en tout cas, qui sont très fortes sur le vide, le sentiment d'exister. Il faut avoir de l'émotion pour quelqu'un.
Oui.
Est-ce que quand vous entendez ça, c'est ça qui vous donne l'envie de fiction aussi parfois ?
C'est-à-dire que quand on fait un film documentaire, on cherche une histoire. On n'est pas sûr qu'il y en aura une. Et Daniel, tout ce qu'il dit raconte une histoire, quoi, qu'il traverse, qu'il... Mais c'est vrai que je me souviens que quand je tournais, qu'il a dit on n'est pas, je suis pas sûre d'exister parce que je suis seule. Je me souviens que ça m'a bouleversée. Toi aussi, t'étais là. C'est toi qui faisais le son. Ouais.
Lucas.
Ouais. Et on l'entend à peine. Et j'avais jamais pensé ça, qu'on puisse se dire que dans la solitude, on n'est pas sûr d'exister. Qu'on est tellement seul qu'on n'est pas sûr d'exister, quoi.
On sera parti du bois, chacun construit sa cabane, chacun a un bois, une forêt. On sera entré dans la partie fictive de chacun, un mensonge plus vrai que la réalité. Les solitudes se sont petit à petit entourées et des mondes se sont créés. Le film de Claire Simon, Le bois dont les rêves sont faits, est au cinéma depuis le 13 avril et à la rentrée à retrouver en DVD et peut-être un de ces jours sur une scène de théâtre, Claire Simon.
Oui, j'espère.
Avec Christophe Paou.
Oui, et Judith Fragi.
Et on peut traverser aussi la musique de Yom du 1er au 3 juin au studio de l'Ermitage à Paris et puis en tournée le 17 juin à Gonesse, le 18 à Saint-Vincent et puis ensuite à Gap, à Nantes. Avant la nuit, je dis merci à Boris Pinault, à Vincent Abouchard pour la réalisation et à la technique. Merci à Philippe Brodin et Adrien Roch. Il est déjà demain, c'est minuit, vous écoutez France Culture, vous entrez dans la forêt dont vos rêves sont faits, vous dites « laissez-moi tranquille, je construis ma maison » et vous avez devant vous toute la nuit.